La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Et je vous invite à vous lever pour chanter le spontané « Me voici Seigneur Sauveur ». Les spontanés qui figurent dans le petit livret vert en début du recueil. Accorde ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte. Alors, bonjour les enfants, il y a des enfants un peu plus grands d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions. Alors, tout d'abord, quel jour sommes-nous ?
Dimanche.
On est dimanche. Alors, c'est la fin des vacances. Vous êtes d'accord jusque-là ? Pourquoi vous avez été en vacances ? Est-ce que vous savez ? On appelle des vacances, on appelle comment ces vacances ? Les vacances de Pâques. Alors, Pâques, pour vous, qu'est-ce que c'est Pâques ? Face à Pâques. Quoi ? Et quoi ?
Eux ?
Et sinon, qu'est-ce que c'est Pâques ? Pourquoi il y a une fête à Pâques ? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire ? Que le Christ est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Même alors, du coup, chez les auditrices.
Je ne voulais pas dire encore. Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est ressuscité ?
J'approche le micro et puis.
Non, mais s'il parle là-haut, il n'y a pas de problème, on les entend.
Donc, il est passé voilà, de la mort à la vie. Les grands, vous avez autre chose à rajouter ? Gaston ? Pardon ? C'est une bonne définition.
Tu as un diplôme.
Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui suit Pâques et qui parle de la résurrection de Jésus. C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire. Alors, je vous en faire un tout petit résumé. Le jour de Pâques, il y a des femmes qui veulent aller récupérer le corps de Jésus qui est mort 2 jours avant. Elles rentrent dans le tombeau. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans le tombeau ? Rien. Il est vide. Alors, tout le monde a peur et il y a 2 personnes qui disent « c'est pas possible, moi, on m'avait prévu Jésus, il était venu pour nous sauver et là, il est mort ». Il y a des femmes qui disent qu'il y a un messager qui est venu leur dire qu'il était vivant. Mais nous, on ne sait pas où il est. On a peur, on s'en va. Donc les 2 disciples, ils sont sur la route, en direction d'un petit village, ils sont à pied. Et puis ils discutent, ils se racontent ce qui s'est passé. Ils se rappellent toute l'histoire de Jésus, comme c'était bien de le suivre, comme il a donné beaucoup d'espérance à tout le monde. C'était vraiment super. Mais maintenant, il est mort et ils ne savent plus quoi faire du tout. Ils ont du mal à comprendre le message pourquoi Jésus il est vivant. Alors qu'on l'a vu, la dernière fois qu'on l'a vu, il était mort sur la croix. Et puis à ce moment-là, au moment où ils se promènent, il y a une personne qui arrive Et en fait, cette personne, c'est Jésus, mais il est incognito. Vous savez ce que ça veut dire, incognito? Il n'a pas dit « Bonjour, c'est moi, Jésus ». Il est venu discuter avec eux, et eux, ils n'ont pas reconnu. Ils étaient tellement dans leur tristesse, dans leur désespoir, qu'il y a une personne qui vient et qui leur dit « Mais pourquoi vous êtes si triste? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, mais Jésus, qui était vraiment le sauveur qu'on attendait, il s'est fait crucifier, il est mort, on ne sait plus où il est, on nous dit qu'il est vivant, mais nous, on ne sait plus. Et Jésus, il pose encore des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Et à un moment, Jésus, il les gronde. Il leur dit, mais vous avez vraiment rien compris à ce qu'on vous a dit. Alors, les deux personnes là, qui sont sur la route, ils disent, mais pourquoi lui, il gronde? Ils n'ont toujours pas reconnu Jésus. Hein. Et là, la nuit commence à tomber. Ils veulent rentrer dans une auberge pour dormir et manger. Et puis Jésus fait mine de partir. Puis les deux disciples, quand même, ils ont bien aimé cette personne qui était à leur côté, qui leur posait des questions. Il a dit, bah, tiens, si tu veux, reste avec nous. Donc Jésus dit, bon, allez, je vais rester avec eux au moins pour manger un petit quelque chose. Il rentre. Et là, qu'est-ce que fait Jésus? Ils le connaissent, ils ne le reconnaissent toujours pas. Jésus, il prend du pain, il le partage et il le donne à manger aux deux personnes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Jésus qui partage le pain, oui? La Sainte Seine, voilà. Donc, y a pas... Et c'est quoi la Sainte Seine, vous savez? Je ne sais plus. Les grands, c'est quoi la Sainte Seine? Oui, vas-y. Le partage du pain et du vin, et c'est le dernier repas que Jésus a pris quand il était vivant corporellement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a rompu le pain? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux personnes qui étaient avec lui l'ont reconnu. Et ils ont dit, mais c'est lui. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus à ce moment-là? Il a disparu de leur regard. Au moment où ils l'ont reconnu, Jésus, il a disparu. Et donc, les disciples qui étaient fatigués, hein, les deux personnes, elles étaient là à vouloir manger, dormir, et elles avaient un peu peur du noir. Je ne sais pas si vous avez peur du noir, ou si vous avez toujours envie d'avoir une lumière avant de vous endormir. Ben là, elles n'ont plus du tout eu peur. Elles n'ont même pas mangé, elles sont reparties à Jérusalem pour aller rejoindre les autres apôtres et pour dire « Jésus est vivant, nous on l'a vu ». Voilà, c'est ça cette histoire qu'on va raconter tout à l'heure au grand, dans la vraie version. Et en fait, c'est pour vous dire que ben, croire, c'est pas forcément simple. Un jour on croit, un jour on ne croit pas. Un jour on peut prier. Et un jour, on a beau prier, ça ne sert à rien. Et bien en fait, les disciples d'Emmaüs, eux, ça a été pareil. Jésus était présent à leur côté tout le temps. Il était toujours là, même quand ils ne le voyaient pas et même quand ils ne le reconnaissaient pas. Et pour vous, c'est pareil. Pour vous, c'est pareil. Jésus, il est avec vous sur votre chemin, même si vous ne le voyez pas et même si vous ne le reconnaissez pas. Et ce qui est important, c'est de pouvoir parler de lui entre nous. Et c'est ce que vous faites au jardin biblique ou à l'école biblique. Donc, les enfants, vous allez continuer de marcher sur vos chemins. Là, vous avez des personnes qui parlent de Jésus avec vous. C'est Gérard, c'est Sylvie, c'est Cyrielle, c'est Seth, c'est Léonie. Toutes ces personnes, elles sont avec vous pour parler de Jésus. Et vous allez donc rejoindre vos groupes pour cheminer ensemble et avec Jésus. En plus, vous avez parlé du pardon. Très bien. Donc voilà, c'était ça l'histoire que je voulais vous raconter. Et donc, je vous invite à vous mettre debout, tous, et pendant ce temps, vous partez, et on va chanter Chante, chante, peuple joyeux. Thank you.
Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le spontané qui suit, le 43-10.
Tel que je suis bien vacillé, en proie au doute chaque instant, luttant de regret en élan, agneau de Dieu, je viens. Dieu
nous relève dans son pardon. Je vous invite à vous lever. Dieu est amour. Il entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, nos manquements sont pardonnés. Par le Saint-Esprit, la puissance de la vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance en chantant le spontané qui suit, le 41-21. La loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à l'esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux sans abri et ne te détourne pas de ton prochain. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui, par ton esprit, assemble les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent, rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile soit la vérité de notre foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. Amen.
Le psaume 33, hein, c'est ça. Nous chantons le psaume 33, page 56, en entier.
Thank you.
vous asseoir. Et comme l'a promis Marie-Vonne, je vais donc lire le texte issu de Luc 24, des versets 33 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. » Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous sont frappées de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous, sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire ce qu'on annonce. Que ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi pour entrer dans sa gloire ? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc sans rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient : le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain.
Jésus a prêché pendant 3 ans. Il a ensuite été rejeté par tout le monde, trahi par Judas, cloué sur une croix. Il meurt le vendredi saint. 3 jours après, les femmes arrivent au tombeau. Elles trouvent le tombeau vide. Elles sont étonnées. Quelques heures plus tard, sur un chemin entre Jérusalem et Emmaüs, 2 disciples se rappellent tous les événements des derniers jours. 2 petites précisions. Emmaüs n'est même pas mentionné sur une carte. On ne sait pas où c'est. 2e précision. On connaît le prénom d'un des deux disciples, Cléopas, qui est un prénom masculin, comme tout le monde le sait. En revanche, on ne sait rien du deuxième prénom, on ne connaît pas son nom, et on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait rien. Symboliquement, ce disciple, ça peut être nous. Revenons à ces deux personnes. Elles s'interrogent sur le sens de la disparition du corps de Jésus, sur l'annonce des anges donnant le message que Jésus est vivant. Et pourtant, ses disciples sont en grand désarroi, dans une grande incompréhension, mais aussi très déçus et dans le doute. Si Jésus est vivant, il est vivant comment? Qu'est devenu le corps de Jésus? Comment peut-il être présent? On ne sait pas, c'est l'incertitude. Jésus est-il mort? Le tombeau est vide. Est-ce la fin de l'histoire? Non. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Mais c'est aussi pour ça que ce n'est pas si simple. Ce texte est un texte qui nous explique une manière de la présence du Christ ressuscité dans nos vies. La mort n'a pas éteint Jésus. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Nous croyons qu'il est présent parmi nous, non pas comme un zombie ou un remake du Retour des morts vivants, mais par une présence, une force. D'ailleurs, il l'a dit et répété, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc encore aujourd'hui dans notre temple, Jésus n'est pas présent en chair et en os, mais Jésus est présent, là, au milieu de notre communauté ce matin. Le symbole du chemin, de la rencontre, est évidemment central dans ce texte. Les disciples sont en chemin. Ils se rappellent leur vie avec Jésus. Sur ces entrefaits, Jésus se rapproche d'eux incognito. On peut donc dire que quand on parle de Jésus, eh bien, Jésus s'approche de nous, mais pas forcément de manière claire ou reconnaissable. D'ailleurs, les disciples ne le reconnaissent pas, car Jésus ne correspond pas à l'image qu'ils avaient de lui. C'est un contre-pied, comme il y en a tant avec Jésus. Dès sa naissance, à Noël, l'arrivée d'un sauveur tout petit, tout fragile, pauvre, n'était pas conforme à l'idée qu'on se faisait et à l'idée qu'attendait le peuple juif. Jésus se rapproche donc de ceux qui parlent de lui, même s'ils ne le voient pas. Jésus chemine toujours avec nous, et souvent, comme les disciples d'Emmaüs, on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Sur ce chemin d'Emmaüs, la nuit se met à tomber. Jésus fait mine de poursuivre sa route. Jésus veut toujours nous amener à aller plus loin. Mais nous, on souhaite garder Jésus à nos côtés, dans nos peurs et nos manques de confiance, comme les disciples qui souhaitent garder Jésus avec eux. Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche, lui dirent-ils. Et pourtant encore à ce stade, les disciples ne reconnaissent toujours pas Jésus. Il reste dans un premier temps un camarade de route énigmatique. Et c'est par une parole, un geste, que les disciples reconnaissent, qu'ils se laissent transpercer par sa présence et le redécouvrent à nouveau. Les disciples passent ainsi de la dépression à l'action, de la désespérance à la flamme réanimée de l'espoir. Dès qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils reconnaissent Jésus, ils rebroussent chemin immédiatement, dans la nuit, pour aller témoigner, partager la bonne nouvelle. La peur, le manque de confiance ont disparu. Ils ont compris la force de la présence de Jésus, alors même qu'il a disparu physiquement. Ce revirement m'a rappelé une séance de caté quand j'étais jeune. Pas une séance de caté quand j'étais animatrice de caté, mais une séance de caté quand moi j'étais jeune. Donc il y a longtemps, au siècle dernier. Nous avions parlé de la conversion, de la nécessité de changer nos actes pour les mettre en adéquation avec ce en quoi nous croyons. Et en fait, on peut ici parler d'une sorte de conversion des disciples. Physiquement, ils changent de direction. Ils retournent à Jérusalem Parallèlement à leur changement de regard et leur changement de paradigme, finalement, les disciples sont passés de la conversation à la conversion. Dans un premier temps, il est écrit « Sur ce chemin, les disciples s'entretenaient et s'interrogeaient, ou plus littéralement, ils se disputaient et débattaient ensemble. » Luc semble se répéter, mais c'est une manière d'insister sur cet élément important. Les deux disciples ne font pas que marcher, ils parlent de ces événements. Cependant, la traduction que Francine vient de lire a un peu terni la force des termes grecs. Ils parlent, mais il ne s'agit pas d'une discussion sur la pluie ou le beau temps. Le premier verbe grec employé est celui d'homiléo, signifiant s'entretenir, mais aussi avoir commerce avec, négocier, et parfois même, la traduction, c'est se rencontrer de manière hostile, en venir aux mains. Sans aller jusque-là, l'emploi de ce verbe suppose malgré tout une discussion assez houleuse. De même, il y a un autre verbe qui est utilisé, c'est le verbe susetheo, qui veut dire chercher, discuter. Ce dernier verbe, il a été utilisé une autre fois chez Luc, au moment où les apôtres s'interrogent pour se demander qui est le traître parmi eux. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait trahir Jésus. Donc, les deux disciples se disputent, et le symbole est aussi de dire que finalement, avec la disparition physique du corps de Jésus, c'est aussi la dislocation sur le plan spatial du groupe des disciples, sur le plan spatial et sur le plan spirituel. Plus de Jésus, plus de groupe. Mais dans le texte, ce désaccord va être résolu par le retour des disciples à Jérusalem à la fin du texte. À la fin du texte, les deux disciples ne restent pas à Emmaüs. Ils rebroussent chemin, ils retournent retrouver les autres à Jérusalem. Et c'est là le début de l'unité de l'Église et en tout cas la naissance de la fraternité. Les disciples changent de direction, de regard. Ils connaissent une conversion qui va générer un renouvellement, une force pour les pousser à témoigner. De manière générale, le mot « conversion » désigne l'action de changer quelque chose en une autre chose, ou le résultat de cette action. En particulier, ce terme est employé dans différents contextes. En informatique, on convertit un fichier pour que son format devienne compatible avec son environnement. En ski, moi la spécialiste du ski, une conversion est une technique permettant d'effectuer un demi-tour sur place à l'arrêt. En philosophie, la conversion désigne le fait de changer en profondeur son regard, sa perception. Les disciples d'Emmaüs, en fait, ils changent de format pour devenir compatibles avec leur nouvel environnement. Ils changent de regard, ils changent de direction et ils ont changé de vie. Et ils ont défini une nouvelle relation avec Dieu dans un nouveau contexte, pas tout seul, mais en communion avec les autres. Ce texte, qui est un des textes qui est le plus connu du Nouveau Testament, il est connu, mais juste une petite anecdote. J'échangeais avec ce texte avec une collègue à la pause. Chose étonnante de parler de religion dans un milieu laïque, mais ça arrive de temps en temps. Un collègue ne le connaissait pas du tout, donc on s'est un petit peu moqué de lui en disant qu'il était inculte. On a commencé à lui raconter l'histoire. Sur ces entrefaits, un autre collègue arrive dans le bureau, écoute la fin, et il me regarde, il dit « Marie-Vonne, t'es en train de parler de quel film ?» Je lui dis un film qui est sur les écrans depuis 2000 ans. Et du coup, ça a été assez drôle. Voilà. Donc ce texte est malgré tout un des textes les plus connus du Nouveau Testament. Il nous rappelle que pour nous, Pâques, c'est tous les dimanches. Nous croyons que Jésus est présent, qu'il est à nos côtés pour nous permettre la compassion aux autres, pour nous donner le courage de surmonter les épreuves et les doutes. Christ nous appelle à témoigner en actes et en paroles de la force de l'espérance et de son amour. Amen.
vous invite à vous lever et nous allons chanter le cantique 36-10, page 507, dont vous vous donnez d'écouter la mélodie. Rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons ensemble notre foi en lisant la deuxième confession de foi que vous trouvez à la fin du livret dans les pages blanches. Jésus, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous relève la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Ah, je vous ai fait vous asseoir, mais il y a un spontané. Donc, faites comme vous voulez. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis le réflexe de prendre, prendre le pain, prendre la nourriture et bien d'autres choses. Mais l'homme adulte doit aussi découvrir la joie de donner, la joie profonde qui est contenue dans le geste du don, don de ce qui nous appartient et don de nous-mêmes. Véritable conversion de nos vies sur les traces du Christ qui savait si bien donner sans rien réclamer en retour. Que notre offrande soit aujourd'hui encore une étape pleine de sens sur la joyeuse route du partage et du don gratuit. Merci Éternel pour ces gestes de don que tu suscites en chacun de nous, chaque jour à ton service. Amen. Et voici le temps des annonces.
Bonjour. Alors, d'abord les merci. Merci à Marie-Vonne et Francine d'avoir pris ce culte au pied levé en l'absence de notre pasteur Nadine Heller qui est souffrante, on va dire. On espère qu'elle va se remettre rapidement et qu'elle va pouvoir revenir dans la paroisse, animer la paroisse. Merci à Frédéric et Mélanie et aussi Jean qui m'ont aidé à l'accueil, enfin qui nous ont aidé à l'accueil. Merci Violette, Élise, Evelyne et Jean-David et Marie-Vonne pour la musique. C'est important. Merci pour les fleurs, je ne sais pas, c'est Daniel. La chorale mardi 19h15, le groupe de prière mercredi 18h, suivi du conseil presbytéral mercredi à 20h15.
20h.
À 20h.
20h.
À 19h. Ah bon, bah alors, il y a des... Ah bah j'ai bien fait de le dire alors. Il va falloir que... Donc c'est 20h.
Reçu une
invitation,
mais tu vas la recevoir.
Ça sera juste.
On va attendre d'aller voir
des liens.
Oula.
Bon, désolé. samedi, il y a la formation des prédicateurs laïcs avec Magali Carlier. Je ne sais pas quel est le thème, Marie-Vonne. La bénédiction, sur le thème de la bénédiction. Et Magali Carlier, donc, qui est pasteur à Bourg-en-Bresse, nous fera le plaisir d'animer le culte du lendemain, donc de dimanche prochain. Ça vaut le coup. Enfin, nous, on l'a déjà entendu. Elle a une parole qui porte. Et puis, le 3 mai, donc c'est pas tout à... Ben, c'est la semaine d'après. Hein. À 20h à la Puya, l'amitié judéo-chrétienne avec l'Apocalypse, regard sur les crises du temps présent par le père Alain Fournier-Bidoz. Là aussi, ça promet d'être détonnant. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que j'aurais oubliées ?
Et merci à Christophe. Nous nous unissons dans la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux afin que soit faite la volonté et non la nôtre. Nos pensées et nos désirs, afin que tu les vivifies. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Amen. Je ne suis jamais seule. Lorsque je prie le Notre Père, je pense aux millions de bouches qui ont prononcé ces paroles avec foi, les ont rendues vibrantes et vivantes. Aussi, je ne suis jamais seule et sans espérance lorsque cette prière donnée par Jésus résonne dans tout mon corps et mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, à vous lever. Allez maintenant comme les pèlerins d'Emmaüs, annoncez la bonne nouvelle en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos sœurs et de nos frères. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Et nous chantons le 44-12, « Te ressembler Jésus », page 668, en entier.